Bonjour. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et il y a pas mal de polémiques, autour de ce thème. Je ne veux pas faire de polémique par ce message, mais je voudrais juste donner quelques éléments pour nous aider à y voir clair. Le premier danger avec, cette théologie de la prospérité, c'est, un, qu'elle ne rend pas compte, de toute la réalité. L'apôtre Paul lui-même a vécu des moments de pauvreté. Il a dit, je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à me contenter dans chaque situation. Donc, faire croire aux chrétiens que du moment qu'ils vont suivre Jésus, ils vont rouler en Rolls-Royce, ils vont pouvoir se payer des chics habits et tout ça, c'est appâter les gens par l'amour du gain. Le cœur humain est cupide, il convoite des biens. Et si on lui présente la foi comme un moyen de s'enrichir, eh bien, il va être tenté de suivre le Seigneur, non pas parce qu'il aime le Seigneur et parce qu'il a compris la justesse de ses enseignements, mais il va suivre le Seigneur parce que le Seigneur va devenir pour lui un moyen d'enrichissement. Et donc, en fait, ce que cette personne cherche, c'est voilà, en gagner le plus possible. Et pour cela, ben je me mets Dieu dans ma poche, puisqu'on me dit que si je le suis, il va me faire prospérer. Et je voudrais lire à ce propos un texte dans la première lettre à Timothée, au chapitre 6, et je lis à partir du verset 6 dans la traduction en français courant. Paul dit à Timothée, certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Voyez-vous, ce qu'on doit dire aux gens, c'est la foi en Dieu, c'est ça la vraie richesse. Et qu'il faut aussi savoir se contenter de ce qu'on a, de toujours vouloir davantage, c'est une quête qui va nous amener beaucoup de déboires. Et Paul continue, verset 7, en effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Bien-aimés, si, parce que vous avez peut-être été troublés, vous avez un désir d'avoir plus que ce qui vous est nécessaire pour vivre, vous commencez à rêver de luxe, à rêver de choses, vous n'êtes pas sur une bonne piste. Le Seigneur dit que si on a la nourriture, si on a le vêtement, nous devrions être déjà reconnaissants. Reconnaissant. Et il continue Paul, verset 9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Donc, Paul prévient que si notre but, même en tant que chrétien, c'est de s'enrichir, on va tomber dans la tentation. On va entrer dans un piège. On va être pris au piège de nombreux désirs parce que le cœur, il est insatiable et il va de plus en plus faire naître des désirs qui, dit Paul, plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent n'est pas quelque chose de chrétien. Vouloir à tout prix s'enrichir, rechercher à tout prix les fausses richesses, celles qui ne sont que passagères, ce n'est pas la voie de Jésus. Dans Paul dit au verset 10, car l'amour de l'argent, c'est la racine de toutes sortes de maux. Et certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Bien-aimés, dans ce monde, peut-être le plus grand problème que connaît notre monde, c'est l'amour de l'argent. Ça entraîne des guerres, ça entraîne des rivalités, ça entraîne des gens qui exploitent leurs prochains. Donc l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Dieu condamne l'amour de l'argent. Il a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et mammon. Eh bien donc si cet amour de l'argent est dans notre cœur, si on cherche à suivre la Bible, si on va écouter prédication, par des pasteurs, juste parce qu'on cherche l'argent et qu'on a une telle envie d'en posséder qu'on est prêt à n'importe quoi, y compris à devenir chrétien, eh bien, il est dit qu'on fait fausse route, qu'on s'est égaré loin de la foi et qu'on va s'infliger bien des tourments. Donc, l'objectif de notre cœur, c'est d'aimer Dieu pour qui il est. De l'aimer sans, c'est pas, on fait pas de marchandage avec Dieu, on dit pas à Dieu, si je t'aime et je te suis, je veux en échange que tu me fasses pour prospérer, rendre riche, tout ça. Non, on fait pas de commerce avec Dieu. Dieu a dit, nul ne me forcera la main. On sert Dieu avec un cœur pur, pas par convoitise. Maintenant, ceci dit, je voudrais souligner une autre vérité qui n'est pas contradictoire, mais qui apporte un autre facette d'éclairage sur cette question de la prospérité. Les études historiques ont montré que, en général, quand quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, eh bien, après quelques années, on va voir que cette personne va prospérer aussi matériellement, financièrement. Donc, un des fruits aussi de suivre Dieu, de mettre en application sa parole, c'est aussi une bénédiction dans ce domaine matériel. Alors comment l'expliquer ? On peut expliquer parce que cette personne s'étant convertie, elle est devenue plus sage, peut-être elle dépensait beaucoup d'argent dans la boisson ou dans la drogue, elle a abandonné ça, donc forcément bah, elle fait des économies. Mais on ne peut pas juste l'expliquer parce qu'il y a plus de sagesse dans la gestion, mais c'est qu'aussi, quand on se donne à Jésus, on est sous la bénédiction de Dieu. On a accepté la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, eh bien, elle se manifeste à plusieurs égards. On le voit, Jean qui va dire, on le lit dans la troisième lettre de Jean, au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. » Donc c'est Jean qui écrit à son ami Gaius et dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Tous égards, ça veut dire que tu prospères physiquement, psychiquement, spirituellement, mais aussi financièrement. Donc c'est vrai qu'en suivant Dieu, il y a aussi une certaine prospérité qui va venir. Et dans l'Ancien Testament, on le lit, c'est quelque chose qui nous est dit. Il dit, voici toutes les bénédictions qui t'atteindront parce que tu écouteras le Seigneur. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne, ta corbeille et ta huche seront bénies et le Seigneur te comblera de bien. Donc dans ce texte de Deutéronome 28, il est dit que quand quelqu'un s'applique à écouter le Seigneur. Il y a une bénédiction qui sera libérée dans sa vie. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne, ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça veut dire là où tu reçois les biens dont tu as besoin pour vivre. Il est dit, le Seigneur te comblera de biens. Donc, on ne cherche pas, ça c'est pas notre but en soi, mais on sait que une des conséquences qui vont accompagner notre obéissance à Dieu, c'est qu'il y aura aussi une bénédiction dans la dimension aussi matérielle de notre vie. Parfois, cette bénédiction ne se manifeste pas parce que le peuple de Dieu ne connaît pas aussi les lois spirituelles ou n'applique pas les lois spirituelles que Dieu nous a données dans sa parole pour une bonne gestion de nos finances. Et il écrit dans la parole de Dieu que faute de connaissance, le peuple périt. Donc il est important aussi que tu connaisses, que tu saches et que tu obéisses aux lois spirituelles que Dieu nous a données, les conseils spirituels que Dieu nous a donnés dans sa parole. C'est pourquoi je t'encourage à suivre la série sur 7 principes bibliques de gestion financière. Écoute toute cette série, mets-la en pratique afin que tu ne te fasses pas voler cette grâce qui accompagne aussi la vie des enfants de Dieu fidèles, même s'il peut y avoir des périodes, il y en a eu pour nous, on était fidèles à Dieu, on est passé au travers de vallées difficiles, de périodes aussi de disette, comme l'apôtre Paul qui disait « Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre aussi dans la pauvreté. En tout, j'ai appris à me contenter. » Donc c'est vrai que Paul a connu des moments où il avait beaucoup, beaucoup. Il a connu des passages aussi, il avait moins, mais d'une manière globale. La générosité de Dieu accompagne ses enfants. Et une des choses que je voudrais vous dire, qui est aussi une clé pour libérer cette bénédiction de Dieu sur notre aspect financier de notre vie, c'est la générosité. La générosité, c'est un principe, c'est une loi dans le royaume de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, il est dit que celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Et quand il est parlé ici de cette vérité qui est tirée de l'agriculture, c'est une vérité appliquée au domaine des offrandes, au domaine de la générosité. Il est dit que celui qui sème peu récoltera peu. C'est-à-dire si tu es peu généreux, eh bien tu récolteras peu de générosité de la part aussi de Dieu. Mais il est dit que celui qui sème beaucoup, donc celui qui est généreux, qui donne abondamment, il est dit qu'il récoltera beaucoup. Notre prospérité, bien-aimé, sera proportionnelle à notre générosité. Tant de gens ne le comprennent pas. Ils veulent prospérer en fermant les cordons de la bourse, en donnant le moins possible. Mais l'avarice ne nous fait pas prospérer. C'est la générosité qui nous fait prospérer. Écoutez donc ces vérités qui sont dans la parole. Proverbe 11, 24. Certains donnent largement et ils accroissent leur fortune. Alléluia. Certains donnent largement. Et quand on donne largement, qu'est-ce qui se passe? On ne s'appauvrit pas. Il est dit, ils accroissent leur fortune. Et il est dit, au contraire, d'autres épargnent plus qu'il est nécessaire et s'appauvrissent. Alors épargner, ça peut être juste, sage de le faire, mais il est parlé ici de gens qui sont avares, qui épargnent plus que nécessaire. Eh bien, en fait, ils sont en train de s'appauvrir. Ce n'est pas le meilleur usage que l'on fait de notre argent. Et il est dit un peu plus loin, dans Proverbe 11, verset 25, « Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. » Oh, que Dieu te donne de comprendre cela, que ton cœur puisse devenir par le renouvellement de l'intelligence et l'action du Saint-Esprit, que ton cœur puisse devenir un cœur généreux. Une personne généreuse sera comblée de bien. Et dans Proverbe 28, verset 27, il est dit « L'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. » Quand Dieu voit que tu es généreux, que tu donnes pour soutenir les malheurs, tu donnes pour des causes humanitaires, tu donnes pour soutenir l'œuvre de Dieu, il est dit « Dieu le vois, Dieu en prend note et tu ne manqueras de rien. » Et vous savez, les paroles des hommes, on peut s'en méfier, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce que je vous ai lu là, c'est oui et amen. Donc mon encouragement, c'est de vraiment opter dans votre vie pour la générosité. Maintenant, de Corinthiens 9, 7 nous dit que quand on décide d'être généreux, il faut que chacun donne, il est dit, comme il l'a décidé. Il y a des abus en matière de générosité, c'est-à-dire on peut mettre la pression sur les gens pour leur faire cracher de l'argent, excusez-moi l'expression, mais on ne doit pas faire ça, ça c'est de l'abus. Et malheureusement, aujourd'hui dans l'Église, il y a de l'abus. Voilà, on promet aux gens la prospérité et en échange, on leur enseigne qu'il faut être généreux. Mais en fait, l'intention, c'est soyez généreux dans le panier parce que moi, le prédicateur, j'ai envie d'avoir la plus grosse offrande possible. Ça, c'est pas juste. Il faut que chacun donne comme il l'a décidé. Et il est dit dans ce verset de Corinthiens 9, 7, non pas à regret. Donc si tu donnes à regret, Dieu n'accueillera pas avec joie ton offrande, donc garde-la, il n'y a pas de souci. Si tu donnes, il est dit, il ne faut pas que tu donnes à regret, ni par obligation, te sentir, oh, ben, je suis forcé, voilà. Et tu vas là-bas, dans le panier d'offrande, comme un esclave enchaîné, qui va, non, non, Dieu nous a affranchis pour la liberté, donc on doit donner sans regret, sans obligation, et avec joie. Amen. Et par rapport à, quand on fait ça, c'est vrai que la sagesse du monde va nous dire « Mais t'es fou de faire ça, garde-le plutôt pour toi, tu es en train de gaspiller ton argent ou de le perdre. » Mais Paul disait « La sagesse que j'annonce, c'est pas la sagesse de ce monde. » La sagesse de ce monde dit « Sois pas généreux et tu seras plus riche. Garde-en plus pour toi et tu seras plus riche. » Mais c'est pas la sagesse du royaume de Dieu, ça c'est la sagesse du monde. Mais Paul dit, la sagesse que moi j'annonce, ce n'est pas la sagesse de ce monde, mais c'est la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes, et qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Alléluia! Ces vérités que je vous dis là, sur la générosité, ces versets, ce sont des vérités cachées aux hommes. Mais Dieu a jugé bon dans sa parole de nous les révéler par le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut aussi nous bénir. Dieu veut aussi élargir notre territoire. Et il nous dit que dans sa parole, c'est en donnant librement, mais en donnant généreusement, que nos richesses vont s'accroître. C'est lui qui le dit. Et Paul nous rappelle ce principe de la sagesse divine dans 2 Corinthiens 9, 8. Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, pour que vous ayez toujours tout le nécessaire et qu'il vous reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. Dieu a le pouvoir. Notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Il a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de biens. On ne cherche pas Dieu pour les biens. Ça serait si on avait l'amour de l'argent. On cherche Dieu pour Dieu, mais Dieu en même temps a le pouvoir, alors qu'on le suit, de nous combler de toutes sortes de biens. Alléluia. Il est dit dans 2 Corinthiens 9, verset 11, « Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. » Si tu n'as jamais pu dans ta vie te montrer vraiment généreux parce que tu n'en avais pas les moyens, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que quand tu vas mettre en pratique les principes de Dieu dans tes finances, tu vas voir tes finances s'accroître. S'accroître non pas juste pour ta pomme, pour voilà, que tu puisses aller dans un niveau de vie plus luxueux. Non, Dieu peut te permettre que tu puisses augmenter peut-être ton train de vie, t'acquérir certaines choses que tu n'avais pas parce qu'il t'aime. Mais la raison, on le lit ici dans 2 Corinthiens 9, 11, pour lequel Dieu veut te faire prospérer financièrement. C'est ça la grande différence entre ceux qui cherchent à s'enrichir et ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. C'est que quand Dieu nous rend suffisamment riches, c'est-à-dire qu'il nous bénit et nous donne du rab, on a plus que le nécessaire, dans le royaume de Dieu, c'est pour que nous puissions sans cesse nous montrer généreux. Dans le royaume du monde, c'est pour qu'on puisse s'acheter une moto plus grosse pour épater la galerie, une voiture plus grosse, une maison plus grande. Voilà. C'est toujours pour soi, pour son ego, pour son nombril. Mais Dieu, quand il fait prospérer ses enfants, et il veut le faire, que nous prospérions à tous égards, c'est pour que nous puissions nous montrer sans cesse généreux. Et vous savez, à quoi on reconnaît un homme ou une femme qui craint l'Éternel? C'est pas forcément des grandes prières très impressionnantes faites à l'église. Il est écrit dans Psaume 112, verset 9, « L'homme ou la femme qui craint l'Éternel, il fait des largesses, il donne aux indigents. » C'est-à-dire, celui qui a compris la grâce, qui a été touché par la grâce, c'est quelqu'un qui va devenir une ressource de grâce. Il fait des largesses. Vous savez, nous, on est tellement étriqués, tellement étroits. Quand on donne, on compte tellement, on resserre tellement. Mais l'homme qui craint l'Éternel fait des largesses et il donne aux indigents, il donne aux pauvres, il soutient les pauvres. Alors, quand on est sous pression financière, parfois dans notre vie, on peut être sous la pression. La tentation, c'est d'épargner plus qu'il ne faut. Et c'est ce que le monde va nous conseiller. La tentation, c'est de fermer le robinet de la générosité. Peut-être tu es dans une phase difficile et c'est la tactique que tu as choisi. Mais ça, ce n'est pas le conseil de Dieu, cette sagesse cachée que Dieu nous a révélée. La sagesse, même dans les périodes de disette, c'est de continuer à semer. Ou alors, si on n'a jamais fait, de commencer à semer. C'est en appliquant cette loi du royaume. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Celui qui fait des largesses sera béni. C'est en appliquant cela qu'on va amener une nouvelle saison de prospérité. Alors, vous allez peut-être me poser la question. Des fois, on me demande, mais est-ce qu'on peut donner quand on est pauvre? Eh bien, la réponse... c'est oui, même s'il ne s'agit pas, on le lit dans 2 Corinthiens 8, verset 13, il ne s'agit pas de nous faire tomber dans le besoin pour soulager les autres. On a besoin aussi d'être sage, d'être conduit par Dieu dans nos offrandes. Mais on voit des exemples dans la Bible où des gens ont donné de manière très généreuse, bien qu'ils étaient très pauvres. On le lit dans 2 Corinthiens 8, 2. Par rapport aux chrétiens de Macédoine, Paul dit, se sont montrés extrêmement généreux, bien qu'ils soient très pauvres. Donc on voit que voilà, la générosité, ce n'est pas que pour ceux qui en ont les moyens et qui peuvent se permettre de donner. Et on a ce fameux exemple aussi avec, dans Luc 21, verset 4, avec cette pauvre veuve qui a offert tout ce qu'elle avait pour vivre. Si en ce moment... vous êtes dans l'abondance, eh bien, alors c'est le moment de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et un jour, si vous étiez dans le besoin et que d'autres frères et sœurs seront dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. C'est ce principe-là qu'il y a dans l'Église d'égalité. On le voit dans la première Église. Voilà, ils partageaient entre eux leurs biens pour que personne ne manque. Donc, ceux qui avaient trop avaient juste ce qu'il fallait. Ceux qui n'avaient pas assez avaient aussi ce qu'il fallait parce qu'il y avait une répartition des richesse. C'est écrit dans 2 Corinthiens 8, 13 à 15, celui qui en avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop, et celui qui en avait peu ramassé n'en manquait pas. Donc la générosité aussi dans l'Église, dans le corps de Christ, permet d'apporter une certaine égalité. C'est ce que Dieu veut aussi. Alors donc, on l'a vu, être généreux, semer, c'est à la portée de tous, même d'une pauvre veuve. Jésus n'a pas dit qu'elle n'aurait pas dû faire cela, au contraire, il l'a cité en exemple. Alors, c'est pareil, Paul a cité en exemple les chrétiens de Macédoine. Et vous savez, pour la veuve, pour les chrétiens de Macédoine, donner c'était un sacrifice. Mais le roi David nous a appris que je n'offrirai pas à Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. Quand tu es généreux et ta générosité te coûte, elle a une grande valeur aux yeux de Jésus. Alors si en ce moment le diable te met la pression, ne le résiste pas avec les armes du monde, avec les armes de la chair, en disant, puisque maintenant je suis sous une pression financière, j'arrête de donner. Demande au contraire à Dieu comment semer, où semer. Parce que dans le royaume de Dieu, semer produit toujours une récolte. Et c'est cette récolte qui brisera la puissance du manque dans ta vie. Celui qui sème avec larmes, même si tu sèmes avec larmes, Dieu promet, tu moissonneras avec chant d'allégresse. On traverse dans notre monde aujourd'hui, que ce soit la crise du coronavirus, d'autres crises avec les criquets, les sauterelles, le manque de pluie, la sécheresse. On traverse des temps de crise. Mais bien-aimés, ce n'est pas le moment pour les chrétiens, à cause de cette pression-là, d'être moins généreux. C'est au contraire le moment de l'être davantage. C'est un acte de foi, c'est croire que ce que Dieu dit dans sa parole est vrai, que c'est la générosité qui ouvre les écluses des cieux. Amen. On ne combat pas la pauvreté par l'avarice, on combat la pauvreté par la générosité. C'est là la sagesse secrète de Dieu qu'il nous révèle dans sa parole. Alors pour conclure ce message, j'aimerais te dire que ta générosité ou ton absence de générosité va affecter beaucoup plus que tu ne le penses le plan de prospérité que Dieu a pour ta vie. Donc, prends à cœur tous ces messages qui ont été postés, que j'ai mis sur cette section des finances. Et je veux prier maintenant dans le nom de Jésus. Que Seigneur, tu libères notre cœur. Tu nous libères notre cœur de l'avarice. Tu libères notre cœur de tout ce qui l'enchaîne et l'empêche de donner avec joie. Seigneur, nous prions que tu transformes notre mentalité, que nous comprenions que dans le royaume de Dieu dont nous sommes des citoyens, la manière de prospérer, ce n'est pas en épargnant à l'excès, mais c'est de la mesure qu'on utilise avec les autres que Dieu va utiliser avec nous. Je prie, Seigneur, que chaque personne qui m'écoute, Dieu puisse utiliser envers elle une grande mesure, parce que ces personnes eux-mêmes, ayant compris l'enseignement de la parole, se auront utilisé une grande mesure pour bénir les autres, pour bénir les indigents, pour bénir l'œuvre de Dieu. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses susciter cette générosité dans l'Église, la réveil de la générosité, pour que ça amène beaucoup d'actions de grâce et qu'aussi beaucoup de bons fruits en découlent qui vont te réjouir, Père. Merci pour ta parole. Nous ne voulons pas qu'elle retourne à toi sans avoir produit son effet. Donc, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous voulons pratiquer ce que nous avons entendu. Rappelle-nous ces vérités et fais-nous entrer dans ce plan de Dieu, pas pour devenir riche, mais pour devenir aussi généreux et pouvoir faire beaucoup de bien autour de nous. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je sais que Dieu est fidèle. Si vous faites ce qu'il vous dit dans sa parole, lui, il fera aussi ce qu'il vous promet. À bientôt.